Ça fait déjà presque un mois que nous entendons des textes tirés en particulier du livre de Samuel qui nous parlait du personnage de David, hein, presque un mois déjà depuis le début du temps ordinaire. Alors ce cycle-là se poursuit, mais cette semaine, c'est une manière d'un petit peu moins là, rigide. Donc on entend des textes tirés de différents livres, mais qui ont tous rapport avec le personnage de David. Et la semaine prochaine, ce sera le personnage de Salomon, donc le fils de David, dont on entendra parler avec des textes qui seront en particulier tirés du premier livre des Rois. En ce jour, c'est donc justement au tout début du premier livre des Rois, un épisode qui est un peu à cheval donc sur la personne de David et de son fils Salomon. C'est la mort de David dont il est question dans ce texte. Et on peut dire qu'au moment de sa mort, David est en train de présenter à son fils un testament spirituel. Et il lui dit essentiellement quatre choses. La première chose qu'il lui dit, c'est « Fils, je vais mourir, comme tout le monde. » Alors, c'est une réalité, notre nature mortelle fait en sorte qu'il faut tous mourir, y compris les personnages les plus importants de l'histoire du salut, comme l'a été le roi David, le Messie. Le deuxième message, il est adressé directement à Salomon. Alors David lui dit, il faut que tu sois fort et courageux. Pourquoi lui dit-il une chose semblable? Est-ce qu'il lui dit parce qu'il vient de lui annoncer qu'il va mourir ou bien en fonction de ce qui va suivre? Probablement un petit peu des deux. Sois fort et courageux, je ne serai plus là, mais toi tu restes et sa mission sera grande. Il deviendra effectivement roi, c'est lui qui prendra le trône de son père. Troisième message qui lui est adressé à Salomon, à David lui enjoint d'observer les décrets, commandements, ordonnances et les édits que le Seigneur a promulgués, parce que s'il les observe, cette observance sera garante de réussite dans tout ce qu'il va entreprendre. Ainsi donc, d'observer les commandements qui ne sont pas établis par les hommes, mais qui ont bien été établis par Dieu, doivent être observés en tout et pour tout. La quatrième chose sur laquelle le roi David termine, c'est qu'il lui dit que non seulement cette observance sera garante de succès, mais surtout elle sera garante des bénédictions divines. Et ce n'est pas seulement une affirmation personnelle que David fait. Il en prend Dieu pour garantie. Il lui a parlé en personne. Donc c'est comme finalement on le voit dans ces quatre caractéristiques, un projet missionnaire qui est donné au roi Salomon de mettre en application ce que son père lui recommande au moment de la mort. Un projet missionnaire, un programme missionnaire, c'est tout ce qui nous est proposé dans la lecture évangélique que nous avons entendue, une lecture continue de l'Évangile selon saint Marc que nous faisons. Et j'oserais dire que nous avons ici la présentation de ce que ça veut dire être un disciple missionnaire. Cette expression très chère au pape François, qui veut montrer comment notre Église doit toujours davantage être une Église en sortie. Et pourquoi est-ce que je dis que ce texte présente une description de ce que c'est un disciple missionnaire? C'est que les deux caractéristiques, celle d'être disciple et celle d'être missionnaire, sont toutes les deux exprimées dans la lecture. Voyez comment au tout début du texte, Jésus dit, ou l'auteur, Marc, écrit que Jésus appela ses disciples. Or, Jésus a déjà appelé ses disciples par nom, il les a déjà choisis. Donc, le mot qui est désigné ou l'action qui est désignée ici par Jésus, c'est l'action toute simple de celui qui dit à ceux qui l'entourent, « Venez-vous-en voir, venez ici. » Et une fois qu'il les appelle à lui, carrément comme ça, « Hey, les gars, là, venez ici. » Il les envoie. Il les envoie dans le monde. Disciples, parce qu'ils se sont mis à la suite de Jésus, ils sont prêts à suivre ce qu'il leur recommande, ce qu'il leur commande. Et missionnaires, parce qu'ils sont sur le point de partir. Et quel est ce programme que Jésus leur propose? J'aimerais m'inspirer d'un professeur de l'Institut dominicain à Ottawa, Maxime Allard, et qui propose un commentaire sur cet évangile qui m'apparaît tout à fait approprié. Il dit, d'une part, il envoie ses disciples en tant que mendiants d'hospitalité, parce qu'avant même de les envoyer, il les réduit à peu près à rien. « N'apportez rien, leur dit-il, même pas une tunique de rechange. » Moi, je ne sais pas, là. Quand on part en voyage et qu'on n'a pas de tunique de rechange, ça veut dire que quand va venir le temps de laver la fameuse tunique qu'on porte sur le dos, il va falloir qu'on trouve quelqu'un qui va nous prêter un pyjama, une robe de chambre, parce que on va être habillé en costume d'Adam, n'est-ce pas? Alors, pas de tunique de rechange quand on part en mission, ça porte avec soi quelques conséquences. Donc, Jésus envoie ses disciples comme des mendiants d'hospitalité. Mais d'autre part, il les envoie aussi en annonceurs d'hospitalité. Parce que c'est clair, une fois qu'on aura été accueilli à quelque part, vu qu'on n'a rien à manger, on va donc nous présenter un plat, quelque chose à manger. Et vous le savez comme moi, il n'y a rien de mieux pour favoriser les conversations que le faire autour d'une assiette. On peut le faire dans un cadre de porte, debout, en disant bonjour, mais c'est autrement plus engageant si on se rassemble autour d'une table et autour d'une assiette, parce qu'alors, très probable qu'on va dire des choses qu'on n'aurait pas dit si on avait été dans le cadre de porte. Et donc, et cette conversation-là que les disciples sont invités à proposer, c'est d'accueillir Dieu qui vient vers nous, le règne de Dieu qui est présent au milieu de son peuple, ou comme Jésus va le dire lui-même, le règne de Dieu qui est au plus profond de chacun et de chacune d'entre nous. Par ailleurs, il faut noter comment Jésus envoie ses disciples deux par deux. Il y a fait allusion il y a quelques jours, on peut discuter par rapport au fait qu'aujourd'hui on dirait que c'est beaucoup plus sécuritaire pour deux disciples d'aller en mission que d'y aller tout seul, mais Maxime Allard, lui, propose plutôt dans son commentaire qu'il offre sur ce texte-là, que les deux disciples deviennent témoins l'un pour l'autre des paroles et des gestes que l'autre va prononcer au nom de Dieu. Donc, la parole de l'un appuie celle de l'autre et vice-versa. Les deux sont des égaux dans la mission et les deux sont des garanties que la promesse que Dieu a faite envers son peuple va vraiment s'accomplir. Frères et sœurs, à l'heure où beaucoup de gens questionnent par rapport au fait qu'est-ce qu'elle devrait être, la mission, la manière dont on devrait la faire, ou qu'est-ce qu'on devrait dire, ou qu'est-ce qu'il faut faire pour convaincre les gens qui sont peut-être dans l'erreur et que nous, on a raison. Les textes d'aujourd'hui, et tout particulièrement l'antienne de l'acclamation à l'Évangile, nous invitent peut-être à une conversion radicale, n'est-ce pas? Une conversion qui est un retour à la source. Être tous et toutes des mendiants d'hospitalité et des annonceurs d'hospitalité pour notre monde. Amen.